Sylvain Tesson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aventurier et voyageur, écrivain également. Vous avez traversé l'Himalaya à pied, traversé les steppes d'Asie centrale sur plus de 3000 km. Vous avez aussi repris l'itinéraire des évadés du Goulag depuis la Sibérie jusqu'à l'Inde. Je peux pas tout raconter. Vous avez vécu en hermine dans une cabane en Sibérie. Vous avez refait la retraite de Russie comme Napoléon, mais en sidecar. Et puis, vous êtes arrivé un grand malheur. Vous me direz si c'est un grand ou un petit ou un énorme malheur. Vous êtes quand même là pour en parler. Vous qui aimiez escalader les murs et les toits des maisons, vous étiez en août 2014 chez des amis à Chamonix, vous avez escaladé leur maison et puis...
Boum.
Vous êtes tombé?
Oui, je suis tombé. Ça s'appelle un grave accident. Enfin, ça s'appelle une petite chute et des très mauvaises conséquences. Et puis, j'ai été plusieurs mois à l'hôpital.
10 mètres de haut, la chute, une semaine dans le coma, 4 mois d'hôpital et de convalescence, une paralysie faciale. Vous racontez tout ça et bien d'autres choses encore dans un recueil publié chez Équateur. Le titre, Une très légère oscillation, très beau titre. C'est votre journal 2014-2017, ça raconte pas seulement ceci. Et vous racontez, vous dites page 46, juste après votre accident, être passé sur l'autre rive, vous êtes vu mort. Est-ce que vous aviez conscience d'être ailleurs?
Non, pas du tout. J'ai conscience de ce qui m'est arrivé parce qu'on me l'a raconté. Mais moi, quand je me suis réveillé de mon coma, j'ai vu des tas de gens extrêmement charmants qui m'apportaient de la compote en me disant des mots très aimables, dans une politesse inouïe. C'est ça qui arrive quand on se réveille de la conscience.
Je suis déçu. Vous dites, j'étais sur l'autre rive, comme disait Chevènement, victime d'un choc toxique. Là-bas, comme je m'en doutais, il n'y avait personne. Je me suis dit, mince, il avait conscience du fait qu'il n'était plus avec nous.
Non, je me suis aperçu qu'il n'y avait personne, parce que quand je suis revenu et qu'on m'a dit que j'avais vécu ça, je me suis dit, peut-être ai-je vécu l'expérience du tunnel. Vous savez, cette histoire de tout d'un coup, j'allais voir 70 vierges qui jouaient de la lyre en m'attendant et en me servant des tonneaux d'ambroisie dans des jungles paradisiaques. Eh bien non, rien.
Vous étiez content du traitement qui vous a été fait à l'hôpital, la compote, tout ça?
Mais c'est formidable. Enfin, le système de santé français au XXIe siècle donne envie de retomber, en tout cas en ce moment, plutôt qu'au XIIIe siècle en Mongolie.
Comment se passe votre éducation? Je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que j'ai découvert qu'il y a des programmes de rééducation qui sont faits et auxquels, entre guillemets, vous avez tourné le dos et vous êtes parti marcher tout seul. D'abord, est-ce que vous avez le droit et pourquoi c'est mieux?
Oui, alors j'ai pas tout à fait tourné le dos au programme de rééducation. En tout cas, je n'ai pas tourné le dos parce que je trouvais qu'ils ne me convenaient pas. Ils sont formidables et moi, je tire mon chapeau absolu à tout ce système de santé incroyable qui vous prend sur le trottoir quand vous êtes fracassé et qui vous lâche quand vous êtes remis et au prix de soins qui vous sont accordés et qui sont fantastiques. Mais simplement, moi, quand j'ai senti que la carcasse marchait à nouveau, je suis allé vers ce que j'aimais.
Et le truc le plus dingue, vous êtes remis à l'escalade.
Oui, mais dans des formes, avec le sens de la conservation de moi-même. C'est-à-dire que je mets une corde maintenant. Je fais attention, je prends des camarades, on part, je prends parfois un guide de montagne qui m'emmène sur des parois, je fais des choses. Je fais plus de la grimpe gonzo,
ouais,
comme autrefois.
Alors désormais, vous avez deux visages. Un qui est marqué par les rides et un autre tout lisse, presque adolescent. Question toute bête, sur lequel dormez-vous?
C'est-à-dire que mon visage flétri par l'âge regarde avec beaucoup de circonspection mon visage rajeuni par la paralysie faciale, j'ai l'impression que la moitié de moi-même surveille l'autre. Alors en fait, je laisse dormir le vieux pendant que le jeune vaque à ses occupations.
Quel effet ça fait d'avoir cette tête-là? Parce qu'en plus, vous en parlez avec une totale liberté.
Bah oui, c'est pas très agréable d'être transformé en gargouille. Alors, ce qui n'est pas grave, c'est quand on part de pas grand-chose, si vous voulez. Moi, je n'avais pas mis ma propre beauté au pinacle de toutes mes vertus, d'autant qu'elle n'existait pas. Alors évidemment, quand vous n'êtes pas... Quand vous n'êtes pas un Apollon, vous n'êtes pas très triste d'être devenu un Méphisto. Ce qui est grave, c'est de perdre quelque chose. Moi, je n'ai pas eu le sentiment de perdre la beauté puisque je ne l'avais pas. Mais, cela dit, c'est assez désagréable d'avoir ce sentiment d'être devenu un monstre, il faut bien le dire. Alors, je m'en console en me disant que finalement, ce côté pourfendu a quelque chose d'amusant. J'ai toujours aimé, moi, l'idée d'être coupé en deux. Il y a une part de moi-même qui est comme ça et une part qui est autrement, le noir et le blanc.
Ici, ça s'appelle Tout et son contraire. Et on retrouve Sylvain Tesson tout à l'heure. Sylvain Tesson, avec nous, aventurier, voyageur, écrivain, qui vient de publier Une très légère oscillation. C'est son journal de 2014 à maintenant, ou presque 2017. Et c'est aux éditions des Équateurs. Il y a des coups de gueule. Par exemple, vous détestez l'expression « pas d'amalgame ».
Oui.
Pourquoi ça vous énerve ?
Mais parce que je trouve ça superbe, l'amalgame. C'est même l'intelligence, l'amalgame. C'est la réflexion, l'amalgame. Quand vous avez deux choses qui semblent leur contraire et que vous réussissez à les relier, ça s'appelle un amalgame. C'est ce qui permet, par un procédé de pensée et de narration, d'aller à un point A à un point B. Ça s'appelle la déduction, ça s'appelle la conclusion que l'on tire de quelque chose.
Mais vous savez ce que dit la doxa quand elle dit pas d'amalgame ? Elle dit, attention, pas d'amalgame, faut pas dire que tous les footballeurs sont des idiots, que tous les musulmans sont des terroristes, etc., etc.
Mais d'abord, pourquoi ne faudrait-il pas le dire si on le pense et si on peut l'argumenter ? Et deuxièmement, je n'écoute pas ce que me dit la doxa. Moi, le seul amalgame dont j'ai l'impression qu'il est en train de nous envahir, c'est l'amalgame qu'il y a entre la parole de la doxa et la soumission que malheureusement, dont on est victime à l'égard de cette doxa.
Page 53, vous citez le Coran avec une phrase terrible. « Quant aux femmes dont vous craignez la désobéissance, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. » Vous l'avez vraiment lu en toutes lettres dans le Coran ?
Oui, oui, bien sûr, on me dira toujours, dans la traduction de Kazimierski qu'on peut trouver pour une somme modique, pour un paquet de cigarettes, en garni flammarion. Bien sûr, c'est tout à fait connu. Alors évidemment, ensuite, on rentre dans ce fameux débat consistant à dire qu'il faut se méfier des interprétations, des traductions, de la distanciation que l'on peut prendre avec la lecture. Ce à quoi on rajoute que tous les grands textes des révélations monothéistes sont également traversés de ce genre de prédications violentes. Mais une fois qu'on a pris toutes ces précautions d'usage en disant que toute révélation monothéiste contient sa violence, on peut tout de même dire qu'il y a une violence qui est contenue dans le texte même. Et moi, c'est ce que je crois.
Vous écrivez un peu plus loin, pour lutter contre la métastase de l'islam radical, je voudrais faire don de mon foie à un djihadiste.
Ah, si,
si. Il est dans quel état votre foie ?
Mais mon foie, il a tellement bu que ça serait au pied de la lettre une véritable entreprise de lutte contre le djihad. Le type qui reçoit mon foie, normalement, il fait pas long feu.
Est-ce que vous avez arrêté de boire depuis l'accident ?
Oui, malheureusement, c'est la seule séquelle que j'ai, c'est que je ne suis plus alcoolique.
Ah bon ?
Oui,
malheureusement ? Je croyais que l'alcoolisme, c'était une maladie, que le plaisir, c'était l'ivresse.
Oui, enfin moi je trouvais qu'il y avait un plaisir dans l'excès. Et je trouvais merveilleux de pouvoir, pour une somme modique, recevoir une lampe d'Aladin. Car une bouteille, c'est la lampe d'Aladin. Vous ouvrez un bouchon, et puis il y a un génie qui sort, et puis qui rentre en vous, et puis moi j'allumais des présences. J'avais l'alcool ni triste, ni suicidaire, ni morbide. Moi j'avais l'alcool assez carnavalesque, uniquement pour moi-même, d'ailleurs pas pour les autres, bien sûr. Mais
oh, dis donc, suicidaire, vous dites, vous n'avez pas l'alcool suicidaire. Vous avez bu un petit coup de blanc avant de tomber de cet immeuble à Chamonix.
Oui, mais c'était une glissade, c'était un trébuchement. Enfin, j'ai pas ouvert la fenêtre pour m'y jeter. Simplement, je trouvais que boire faisait naître en moi des présents. J'avais l'impression d'être au carnaval de Dunkerque alors que je restais chez moi. C'est tout de même agréable.
En 2013, vous aviez publié un livre, Géographie de l'instant, toujours aux éditions des Équateurs. Et j'avais repéré quelque chose que vous écriviez. Page 225, je dis ça pour les puristes qui veulent vérifier. Vous parliez des falaises de Ginac, près de Marseille, menacées d'effondrement. On est en 2013 et vous dites, parfois, triste ou saoul, je me sens comme les falaises de Ginac. Et je me suis dit, waouh, c'est prémonitoire, il avait peur de s'effondrer.
Oui, quelques mois avant ma chute, j'avais même écrit une nouvelle dans un autre livre qui racontait l'histoire d'un type qui tombe de sa gouttière et qui se fracasse. C'est une phrase d'Oscar Wilde, je crois. C'est arrivé parce que je l'avais écrit. On est beaucoup à penser cela, que parfois la littérature a un tel pouvoir magique et mystérieux qu'il y a beaucoup d'écrivains, enfin je ne me compte pas parmi les écrivains, mais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui parfois ont suscité les choses par une forme de prophétie autoréalisatrice qui consistait à faire advenir ce qui avait été simplement énoncé.
Sylvain Tesson avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Sylvain Tesson avec nous, aventurier et voyageur, et vous êtes écrivain, c'est ce qui vous permet de vivre ? Comment vous vivez ? Je me dis, il voyage tout le temps dans tous les endroits. Il a un budget illimité. Comment vous faites ?
Non, c'est la plume. Moi, je ne vis que de mes textes, en fait. C'est ma seule source professionnelle. J'écris ce que je vis, j'écris ce que je vois, et j'écris ce que je pense. Je n'écris pas ce que j'imagine.
Parce qu'à un moment donné, vous êtes à Tanger, vous montez sur un volcan dans le sud du Chili, puis vous êtes au Yémen, à Sanaa, puis la page suivante, vous assistez à la messe de Pâques dans un camp de réfugiés chrétiens Erbil. Puis au Kurdistan irakien, je me dis, c'est incroyable.
Oui, mais c'est une vie de reporter, c'est une vie de journaliste. Je vais et je viens, et puis quand je suis ici, c'est pour écrire et repartir.
Est-il vrai que vous n'avez pas de carte d'électeur ?
J'ai presque pas de carte.
Ça veut dire quoi, presque pas de carte ?
Ça veut dire que je préfère les cartes IGN. Je préfère les cartes de l'Institut Géographique National qui me permettent de disparaître dans le territoire aux cartes d'électeur. Oui, je ne vote pas, ça c'est vrai.
Est-il vrai que vous n'avez jamais de pharmacie sur vous quand vous voyagez ?
Je prenais autrefois de l'aspirine pour les gueules de bois.
Et c'est tout.
Oui, mais maintenant, comme je ne bois plus, je n'ai même plus besoin d'aspirine. J'ai quand même besoin aujourd'hui de davantage de médicaments qu'avant, puisque j'ai quelques séquelles qui me contraignent à une médication.
Attention, j'ai des informations assez étranges sur vous, Sylvain Tesson. Est-il vrai que vous mangez les sardines avec les doigts ?
Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça dépend.
Peux le dire, qui l'a dit, c'est votre père.
Ah oui, mais je vois ce qu'il voulait dire. Il faut faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il parle symboliquement. Il est davantage du côté de la civilisation que moi, en tout cas des formes de la civilisation que moi.
Il parle de vous, en plus avec beaucoup de tendresse. Il dit, il s'habille comme un clochard avec mes restes.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que moi je ne cours pas les fripiers et les marchands de vêtements, je veux dire. Et du coup, je récupère ce que moi, vous savez, c'est comme les arbres, les feuilles tombent et moi je les ramasse et puis je m'habille avec ça.
Vous avez dit, peut-être vous ne le pensez plus, j'espère toujours mourir violemment.
Ah oui, ça j'espère beaucoup.
Pourquoi ?
Je me suis approché pas très loin de l'extinction des feux. J'ai trouvé ça, non pas agréable bien entendu, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que l'idée de enfin vous voyez très bien ce que ça veut dire.
Ah bah non, justement, ce que veut tout le monde, c'est dormir tranquillement, sans douleur, dans son lit, ne pas se réveiller un matin.
Mais surtout pas, parce que d'abord c'est assez rare, je crois, et deuxièmement, ça veut dire que la mort vous prend en défaut, alors que vous espériez ce truc tellement merveilleux qui est une matinée qui recommence. Moi, je préfère l'extinction brutale.
Est-ce que c'est littéral ou est-ce que c'est une façon de parler ? Est-il vrai, vous le dites page 33, que vous savez déjà dans quelle tenue vous souhaitez être inhumé ?
Oui, je pense que pour ennuyer les archéologues, il faut essayer de brouiller les pistes. J'aime beaucoup l'idée de brouiller les pistes en permanence. Or, pour brouiller les pistes pour un archéologue, il faut s'habiller avec des objets qui correspondent à des époques différentes. Alors, vous mettez un casque romain, vous prenez un téléphone portable, vous allez chercher un bijou égyptien. Enfin, encore faut-il disposer de toutes ces pièces. Mais un collectionneur d'art pourrait s'amuser à brouiller incroyablement les pistes. Et quand il serait découvert par un archéologue dans 1500 ans, ça ferait un sacré sujet d'étude.
Est-ce que vous pensez que dans 1500 ans, il y a encore quelqu'un qui vous lira ?
Je pense que tous les auteurs l'espèrent, mais que tous vous répondront que pas du tout, et ils n'auront pas l'immodestie de croire qu'ils seront encore un sujet de préoccupation la semaine prochaine.
Oh mince, j'y pense à l'instant, vous dites un truc, je dis c'est pas possible de pas le penser. Vous dites Mao, le rêve de tout écrivain, un livre tiré à 1 milliard d'exemplaires avec lecture obligatoire.
Mais bien entendu, il n'y a pas d'écrivain qui ne soit pas un mégalomane.
Il n'y a pas de plaisir si la lecture est obligatoire. L'orgueil n'a plus rien à voir là-dedans. On dit, tiens, les gens lisent mon livre parce qu'ils sont obligés.
Oui, mais enfin, un écrivain, il croit d'abord à son tirage. Alors, mais bien sûr, et ils seront bien malhonnêtes, ceux qui vous disent le contraire. Donc, si aussi coercitif que soit le succès de votre livre et le tirage, tout le monde sera pour. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'écrivains français qui étaient maoïstes.
Merci beaucoup, Sylvain Tesson, d'être venu nous voir.
Merci.